Merci à Sœur Claire Madeleine pour cette remarquable conférence qui nous a fait toucher du doigt énormément de choses. Comprendre des lieux, comprendre des itinéraires, c'est tout à fait passionnant. Nous avons tous beaucoup appris. Il y aurait peut-être, j'espère, je ne sais pas très bien au niveau du timing, mais il y a peut-être l'espace de quelques questions quand même, ça vaudrait le coup. Hein, je vous en prépare, j'en ai deux à poser, puis après je vous laisse tout de suite la parole. Juste à propos de la transition entre Sainte-Eugénie et ici. Vous avez dit tout à l'heure que ça se passe entre début 1520 et septembre 1521, donc il y a pendant un an. Voilà. Et c'est l'époque justement où va mourir votre dernier confesseur récollet, le Père Courageux. Or, il semble, j'ai lu quelque part, que le Père Courageux a été au courant du fait que vous alliez venir ici et qu'il a dit « Ah, c'est quelque chose de providentiel. » Voilà. Et ce que je voulais me rendre compte, c'est est-ce que le fait que ce n'est pas un lieu comme nous, ce n'est pas un lieu innocent ici, c'est un lieu franciscain. J'ai des bénédictines, bon, là, vous êtes vraiment un franciscain. Non, mais je veux dire, c'était au sein de la famille franciscaine. Est-ce que, vous ne l'avez pas évoqué, est-ce que ça a joué un rôle? Est-ce que les sœurs ont été heureuses? Parce que je dis ça parce que vous m'avez passé hier un document tout à fait passionnant, et à la fin, il y a les communautés avec lesquelles les sœurs sont en relation. Quelle est la première communauté avec les sœurs sont en relation? Et dites-moi, la première communauté, eh bien, ce sont tous les capucins de la province, tous les couvents de capucins de la province. Alors, quelles sont sous la juridiction de Récollet? La première, alors je parle sous l'ancien régime, elles disent, la première communauté avec laquelle on veut être en association de prière, ce sont les capucins. C'est quand même extraordinaire. Et en 1821, elles se retrouvent dans un couvent de capucins. Il y avait des sœurs qui étaient de l'ancienne génération, enfin, qui étaient là sous là. Ça a dû leur faire quelque chose quand même. Nous retrouvons. Alors, je veux dire, est-ce que ça apparaît quelque part, cette joie?
Non.
Enfin, cette reconnaissance, je veux dire, on retrouve un lieu franciscain, oui ou non?
Non, ça pas sur
même dans le nécrologe, qui quand même ajoute beaucoup de renseignements, j'ai pas fait attention.
Ouais. Voilà.
Je dirais, peut-être que les Sinoé étaient sensibles une fois arrivés ici, mais il y avait eu énormément de querelles entre Cordelier et Récollet à leur arrivée. Elles étaient à l'autre bout de la ville, et sans doute aussi que les Capucins se sont installés ici, loin des remparts, un siècle après, parce qu'il y avait eu de telles querelles en ville, qu'ils ont dû se dire allons un peu à l'écart, ne ravivons pas les querelles.
C'est aussi le fait que les Capucins aimaient bien se mettre à l'extérieur.
Voilà.
De toute façon.
Voilà. Alors après, je vous dis, j'ai pas vu de.
Alors, deuxième petite chose, et après, je promets que je vous laisse la parole. C'est quand même extrêmement étonnant dans un couvent de Capucins, il n'y a pas de cloître.
Alors, vous m'avez répondu. Vous envoyez un courrier électronique, vous m'avez
répondu. Ah, c'est quand même extrêmement étonnant qu'il voit tout. Et alors, deuxième chose, je pense que c'est important d'insister là-dessus, le fait que votre cœur soit deux étages, c'est une caractéristique de l'architecture capucine. Allez au couvent de Cré, qui se trouve pas très très loin d'ici, loin de Rome, vous trouverez. Moi, je me suis dit ce matin, quand j'étais là, je me suis dit, je suis à Cré ici. C'est exactement la même physionomie de cette espèce de grande nef, et puis après, ouf, ça monte comme ça. Et alors, la tradition voulait que dans ces couvents de Capucins, c'est encore le cas à Cré, vous avez la bibliothèque au-dessus du cœur démoniaque. Or, la sœur m'a dit que maintenant, vous avez rétabli votre bibliothèque au-dessus du cœur. Ah, bravo, la sœur.
Sauf qu'on l'a fait sans savoir, parce que moi, quand je suis rentrée, c'était la lingerie qui était là-haut.
C'est pas grave.
Et sans savoir,
c'est la sœur. Des questions?
Je voulais d'abord remercier Sœur Marie-Madeleine pour cet exposé qui, vous avez, je ne m'y attendais pas à ce point, réussi à concilier un acte de foi vrai avec un travail de recherche historique authentique. Et merci vraiment de cette réussite. Et j'avais quelques petites demandes au sur les sœurs converses, un peu la discussion du matin qui se poursuit. Est-ce que c'était pas les sœurs converses des femmes au service de la communauté, des domestiques, pour dire les choses simplement, comme il existait dans beaucoup de monastères bénédictins, bénédictines, ce type de personnes qui n'étaient pas tout à fait consacrées à Dieu pour la prière, mais plutôt au service de la communauté. Alors ça, c'était une première question. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Et puis, j'en avais une ou deux autres. Une, ça suffira. Je n'ai pas parlé du concordat de 1802, qui pacifie quand même les relations entre les catholiques, on va dire, et le monde civil, la société civile. Est-ce que ce concordat de 1802 a eu une incidence pour la reconstruction, on va dire, ou la réédification de la communauté des Clarisses de Montbrison? Et enfin, j'avais une toute petite remarque à faire. Est-ce qu'il existait dans ce monastère un cimetière pour les religieuses? Et où?
Pour repartir, c'est vrai que j'ai fait tout un travail de recherche que je ne pouvais pas vous partager, c'était trop long. Mais j'ai réussi à faire des listes de sœurs, de parages et tout ça. Voilà. Deuxième question sur les sœurs de l'extérieur. Non, je ne pense pas que c'était des servantes. C'était vraiment des sœurs qui faisaient le lien avec les sœurs de l'intérieur et pour la quête en particulier. Et c'était, j'ai évoqué deux sœurs qui étaient rentrées avant la Révolution, des sœurs qui étaient à l'époque, à l'origine, des sœurs du dehors, qui sont devenues converses à l'intérieur. Et c'est vrai qu'elles disent, on manquait de sœurs, elles étaient bien bâties, fortes, et elles sont rentrées pour aider à l'infirmerie. Et donc là, certainement qu'elles étaient un petit peu sœurs servantes. Mais elles étaient à l'intérieur. Donc, le statut des sœurs à l'extérieur, c'était une communauté autonome qui servait pour les besoins extérieurs. Alors, le cimetière, j'avais prévu de dire, j'ai pas eu le temps, hein, il y avait beaucoup de cimetières à l'intérieur, et il y a eu le transfert des sœurs défuntes de Sainte-Eugénie qui a eu lieu en février 1821. Parce que pendant l'époque, là, elles avaient perdu à peu près 17 sœurs, je vous avais dit à peu de choses près, 17 sœurs en 17 ans. Et elles les ont toutes ramenées avec le père Honoré Courageau. Donc le père Honoré Courageau, il a quelques cendres ici. Alors on a deux cimetières, en fait, un cimetière à l'extérieur pour les sœurs, et même un cimetière, une fosse, un caveau par ici, dessous, où sont enterrées les sœurs externes et puis les frères franciscains. Alors après, pour la garde. Les capucins. Alors, les capucins et après, ce dont les frères franciscains qui ont suivi au 19e siècle. Alors, j'avais préparé des choses sur le concordat, j'ai pas eu le temps, mais vous en parlerez. Voilà, ce sera la partie de Pierre Moragini. Voilà. Je pense qu'ils fournissaient l'alimentation, quoi. Je pense qu'ils payaient les frais d'entretien. Voilà. Mais ce n'était pas une dot. De toute façon, dans notre ordre, il n'y a pas de dot.
Oui.
Non, mais je pense une rémunération pour le travail d'enseignement. Alors, je pense que quand même, dans l'ensemble, les sœurs étaient reçues vers 10, 11, 12 ans. Ça faisait l'équivalent d'une entrée en sixième. Ça faisait l'équivalent de ce qui a existé plus tard avec les petits séminaires, vous voyez. Et là, elles avaient un habit spécial, et là, Sainte Colette l'évoque avec précision. Elles avaient un habit, mais alors elles n'avaient pas le droit de faire profession, de toute façon, avant 18 ans.
partir au sens physique du terme. Est-ce que vous pourrez considérer que le jabob en question, qui habitait à mi-chemin entre votre monastère et la maison de gaz, c'est-à-dire à peine 150 mètres de votre couvent, est-ce qu'on peut considérer qu'il pouvait aussi quelque part, même si il était dans l'esprit révolutionnaire qui appliquait le consigne, prenez aussi en compte l'opinion montbrisonnaise et l'attachement, vous avez parlé de la pétition qui avait été faite, l'attachement des montbrisonnais à votre communauté et aux sœurs clarisses qui étaient les 5 siècles. À l'époque, c'était 3, mais voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de cela?
Alors, c'est possible. C'est possible parce que Auguste Boutin, dans son livre, fait rapporter que Jean Vogue aurait rendu aux sœurs un crucifix en ivoire, je ne sais quoi, qui aurait eu une délicatesse envers les sœurs. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, ce n'est pas dans nos annales. Voilà. Alors vous voyez quand même, Jean Vogue, il était l'équivalent sur place de Robespierre. Et il y a eu un moment où il a été pressenti, parce qu'une fois qu'il est parti, parce qu'il a été d'une telle violence que ses agissements ont été quand même soulignés à Paris. Et il a eu une remarque de Paris en lui disant qu'il avait dépassé les bornes. Donc il est remonté sur Paris au moment où Robespierre était mort, et il y a eu un moment où il a été pressenti comme successeur de Robespierre, et qui en avait en face de soi. Bon, et puis finalement, comme ça arrive parfois, le voleur a été piégé, et ben c'est lui qui a été fusillé, il y a eu telle violence, voilà, il a aussi plus ou moins fomenté une nouvelle révolte du côté de Paris, et puis il a fini fusillé. Voilà. Alors la chasse, ça n'a pas de rapport. Alors il y avait quelque chose dans la revue des études franciscaines que j'ai oublié. Il y a eu un moment à Rome où ils ont fait du ménage entre guillemets dans les catacombes et ils ont envoyé dans la France entière, dans l'Europe entière, des enveloppes avec des restes des martyrs en disant le nom. Alors c'est quelle année, monsieur ? Qu'à Rome, ils ont vidé les catacombes et qu'ils ont... Il y avait un numéro dans l'étude franciscaine il n'y a pas très très longtemps.
Oui, c'était au 17e, période bien précise.
Bon, alors...
Je ne pense pas que ce soit une question de ménage dans les catacombes. Il y a eu des demandes de réception de corps de saints, hein, et on a fait venir... Je reconnais que c'est un domaine...
Alors, 17e siècle. Voilà. Mais en tout cas, dans ce numéro et dans cet article, oui, c'était bien référencé. Il y avait dans la France, je ne sais pas, oui, peut-être où les ordres, où les communautés, où les reliques avaient été. Il y a un référencement très très précis. Et donc, 17e siècle, voilà. Mais après, je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Là, il reste très peu de choses. Le corps est en cire et il y a quelques petits morceaux. Voilà.
Le corps de qui?
Alors, c'est...
Solange,
c'est qui? Dieudonné. Dieudonné, une martyre des premiers siècles. Oui, mais donc en fait ce sont des tout petits morceaux d'os, il y a très peu de choses. Voilà, alors sur ce nom, je vous dis qu'on connaît très bien la place qu'elle avait dans les catacombes. Et est marquée. Voilà, alors donc l'hôtel a été refait il y a à peine un an, et pour qu'un hôtel puisse être consacré, il faut des reliques. Et donc on a mis une relique de Sainte-Claire, c'est 4 mm de cheveux, une relique de Saint-François. Alors de toute façon, alors les reliques, les 4 mm de cheveux, on nous ont été donnés par le proto-monastère d'Assise. On a fait une demande à Assise. Assise nous a répondu qu'il n'avait plus de relique de Saint-François. Et oui, comme on l'a trouvé dans un tiroir.
C'est le seul qui, il y a quelques années, il y a longtemps, où le premier hôtel avait demandé des reliques.
Pas plus fort. Voilà,
c'était resté dans une enveloppe, mais c'est le seul, je pense que.
Oui, mais ça a été trouvé dans un tiroir.
Oui,
un peu par hasard. Voilà. Et Sainte-Colette, Poligny, on a demandé à Poligny. Oui, voilà, voilà. Voilà. Alors, Poligny, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Nous vous offrons un goûter. Et si vous voulez, on peut aller voir Pierre à l'extérieur. Et puis, bon. Et puis, on reprend. Peut-être 5 minutes en retard ou.
C'est-à-dire
4h-10. C'est trop court. 4h-5, 4h. 4h. On reprend 4h.